Tête à claque aujourd'hui à Annonay, à la Magma, donc avec Lucie qui va nous en parler, tout simplement.
Bonjour Lucie.
Ben bonjour.
Alors, la genèse.
Alors, la Magma, déjà, c'est un tiers-lieu, donc situé à Annonay, dans une friche industrielle. C'est un lieu qui fait plus de 3000 m2. Qui a été réhabilité pour devenir un tiers-lieu. Là, on en est à la première phase du projet, c'est-à-dire des espaces de travail, des bureaux, des ateliers. Donc on a rénové environ 800 m2 de cette usine. Et la phase future, ce sera de faire un garage participatif, peut-être un café associatif, un espace musique. Voilà, il y a énormément d'espaces, donc c'est encore en réflexion. Magma, ça veut dire maison d'agitation multiculturelle alternative, pour l'histoire. Et l'histoire de ce projet, c'est un projet qui a vu le jour en 2017. Fin 2017, il y a environ une dizaine de personnes sur Annonay qui se sont rencontrées, qui ont échangé, qui avaient envie de faire revivre ce lieu, cette usine qui existe depuis... Avant, fin 18e siècle, en fait, la base avait été construite. Et en 1944, c'était une usine qui fabriquait des chaussures de luxe, de la marque Dano. Voilà. Donc l'usine a un très vieil historique. Et plus personne, en fait, travaillait dans cette usine. Et il y avait vraiment la volonté de la réhabiliter, de faire un nouvel espace, de créer du lien entre les habitants et les habitantes, de faire également des espaces de répétition de musique. Voilà, c'était un ensemble d'idées, de personnes qui avaient envie de faire bouger leur ville.
Ça fait depuis longtemps.
Alors, après les chaussures de luxe, c'était une entreprise qui faisait de la robinetterie industrielle, Fanatome. Ensuite, il y a eu aussi des toiles de montgolfière, parce qu'il faut savoir que Annonay est très connue pour les montgolfières. Donc, il y avait une association qui fabriquait des toiles de montgolfière ici. Ensuite, il y a eu de la mécanique générale, et ça faisait environ 2 ans que le bâtiment était abandonné. Donc, un très grand bâtiment situé au cœur d'Annonay, en fait, à 5 minutes à pied de la place de la Liberté, du centre-ville. Oui, donc c'est super. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais juste en face, il y a une autre usine un peu désaffectée.
Oui, ouais.
Voilà. Donc...
Il y a des projets là-dessus aussi ou pas ?
Alors, pour l'instant, non. Mais c'est vrai que c'est plutôt qu'Annonay était quand même une ville très riche en termes d'industrie. Il y avait les papiers Canson, enfin, toujours. Mais voilà, il y avait des très grandes usines. Et l'idée, c'était de ne pas les laisser comme ça abandonner parce que c'est dommage d'avoir un si grand espace et de rien en faire. Donc c'est parti de là, de cette envie, cette volonté de redynamiser la ville.
Et alors, c'est concrétisé comment ? Vous avez acheté le bâtiment ou c'est quoi ?
Alors, le bâtiment, il appartient à une SCI. Et dans la SCI, il y a une personne qui fait partie du collectif. Et l'association, en fait, l'association a été créée en 2018, donc une fois que toutes les personnes se sont rencontrées pour réfléchir à un projet, à un nom, c'est là qu'est né le nom de la Magma. Et l'association a été créée, donc début 2018. Et je crois qu'il y avait une dizaine de personnes à l'époque, donc moi je suis arrivée après, je suis arrivée en 2020. Voilà. Donc l'association, en fait, une fois que l'association a été créée, l'association et la SCI se sont rencontrées pour définir un bail, se mettre d'accord sur un mode de location. Donc l'association loue le bâtiment à la SCI. Okay. Et c'est un bail, je crois que les discussions ont duré environ 1 an avant de se mettre d'accord pour quel type de bail, parce que l'idée c'était que ça soit pas
ça
non plus trop cher. Voilà.
Ça dure,
c'est ça. Et... Donc, il y a eu tout un tas d'échanges et finalement un accord pour louer ce bâtiment à un prix qui est quand même très faible par rapport à ce que ça pourrait être, quoi. Mm-hmm. Pour que le projet puisse naître.
Et vous avez une durée de temps limitée ou pas ? Au niveau du bail ?
Alors, ça, je ne sais pas exactement.
Parce que, enfin, je pense à ça parce que je me dis qu'il y a énormément de travaux à faire, j'imagine. Donc, qui les fait? Alors, du coup, c'est pas vous, c'est l'association ou c'est la SCI ou comment ça se passe, du coup?
Du coup, c'est l'association qui prend en charge les travaux. Et justement, pendant cette mise en accord, on va dire, entre la SCI et l'ASSO, ils se sont mis d'accord sur le fait de dire que si jamais l'association voulait racheter le bâtiment, le prix serait le même que le prix de l'usine avant tous les travaux qui auront été faits par l'association.
Ah, ok. Ouais, c'est une garantie quand même. Et comment vous faites pour les travaux, alors, du coup?
Alors, les travaux, ils ont commencé en 2020. Enfin, le tout premier chantier participatif, c'était en 2019, un an après la création de l'association. C'était donc un chantier participatif pour nettoyer, faire du tri, nettoyer un peu les espaces pour voir comment ça allait être possible ensuite de faire les travaux. Et un an après, il y a eu ça durait environ un an, des chantiers participatifs pour créer des ateliers, des bureaux. On a aussi fait appel à des artisans pour venir, par exemple, poser les fenêtres. Enfin, il y a quelques travaux qui ont été faits par des artisans et pour lesquels l'association a payé. Et il y a eu énormément de chantiers participatifs.
D'accord.
Voilà, on a aussi...
Et au niveau matériel, tout ça, comment vous avez fait? Vous avez eu des aides, des subventions?
Oui, alors il y a une subvention qui s'appelle le Leader. Je ne sais pas si ça te parle.
Non.
C'est une subvention européenne. Donc, qui est de l'ordre de autour de 30 000 euros de subvention pour les travaux. Il y a eu également un financement participatif qui a permis de financer des travaux. On a aussi reçu du don de placo de Saint-Gobain, Solidarité. Voilà, donc beaucoup de récupération, beaucoup de chantiers participatifs, de travail bénévole et un peu des aides du département, des aides du Leader.
Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de mètres carrés, hein, c'est ça, 3 000, hein.
Oui.
Donc à refaire, c'est du boulot, quoi.
Oui.
Ouais. Donc là, on est par exemple dans un espace de réunion, c'est ça?
Oui.
Et donc ça, c'est des choses que quoi vous louez ou vous prêtez ou comment vous fonctionnez à ce niveau-là?
Alors là, donc en fait, l'usine a 3 étages. On a réhabilité pour l'instant la moitié de 2 étages. Là, on est au 2e étage, c'est celui qui est dédié au bureau. Tout ce qui est travail bureautique, on a par exemple des associations, notamment l'association Pluriel, l'association Forum Réfugiés, on a des collectifs artistiques qui travaillent ici, le collectif Plateau, le collectif Parage, une personne qui fait de l'illustration, une personne qui fait des tampons, des peintres aussi.
Donc ça veut dire que eux, par exemple, ils ont un atelier qui est permanent?
Voilà,
ouais.
Ils louent un bureau, tout comme les ateliers au premier étage, c'est des personnes qui sont là à l'année. C'est des baux d'un an, mais qui sont reconductibles. Et les personnes peuvent venir quand elles veulent. Elles ont leur clé de l'entrée du bâtiment, elles ont leur clé de bureau. Donc, c'est vraiment le bureau, leur bureau. Et là, on est dans la salle de réunion qui est à cet étage. C'est un espace qu'on loue de façon ponctuelle, voilà, qui peut accueillir des réunions, des cours, des formations éventuellement. Et au premier étage, on a des ateliers dédiés à l'art et l'artisanat. On a 6 ateliers. Et une grande salle qui s'appelle la salle sur demande, qui peut accueillir des réunions, des formations. Là, par exemple, dans 1 heure, il va y avoir la projection de documentaires sur l'histoire de l'anarchisme. On a des cours de comédie musicale, du théâtre, des formations, beaucoup de choses qui se passent dans cette salle. Et pareil, c'est un espace ponctuel.
Il y a des gens, par exemple, qui viennent pour donner des cours, par exemple des cours de danse,
oui,
des cours de...
Ouais. Oui. 2 fois par semaine, donc on a le lundi soir les cours de théâtre d'improvisation, qui sont d'ailleurs donnés par une personne qui est résidente, qui s'appelle Dorian, et qui est metteur en scène et qui donne aussi des cours de théâtre.
Quand
donc,
tu dis
ici.
Résidence, ça veut dire?
Alors quand je dis résident ou résidente, c'est les personnes qui louent un bureau ou un atelier, donc qui sont là à l'année.
Ok.
Voilà, et le vendredi soir, il y a des cours de comédie musicale, qui sont donnés par l'association Art en scène.
Ok.
Okay. L'année dernière, on avait aussi des cours de yoga. Cette année, c'est pas été possible de refaire, mais...
D'accord. Et alors, comment vous avez déterminé le coût de ces locations, on va dire? Comment ça s'est décidé?
Alors, il y a eu un coût qui a été estimé. Donc, il faut aussi savoir que dans notre fonctionnement, donc on a un collectif, on fonctionne de façon horizontale, et il y a plusieurs commissions. Par exemple, la commission communication, il y a la commission chantier, et la commission admin et finances, dans laquelle je ne fais pas partie, mais qui se réunit régulièrement pour discuter de ces questions-là, de loyer, de financement de l'association, budget prévisionnel, tout ça. Donc, c'est dans cette commission qu'a été décidé le prix, qui était un prix défini au mètre carré à ce moment-là, autant pour les bureaux et les ateliers que pour les espaces ponctuels. Voilà, il faut aussi savoir que les ateliers, on propose trois prix. On propose un prix de décollage qui est 30% de moins que le juste prix et un prix de soutien qui est 30% de plus que le juste prix. En fait, ces trois prix, c'est vraiment... Le prix de décollage, c'est pour les personnes qui se lancent dans leur activité et qui ont besoin... Voilà, et qui est valable un an. Et le juste prix, c'est un prix qui nous permet de rentrer dans nos frais. Et prix de soutien pour les personnes qui peuvent mettre un peu plus. Sachant que les bureaux et les ateliers sont presque tous loués, il nous reste un demi-poste dans un atelier.
D'accord. Donc, ça marche bien.
Ouais, on est.
Il y a plus de demandes que de.
Non ? Alors, c'est vrai ces derniers temps, il y a eu plusieurs personnes qui étaient intéressées par un espace, et notamment par un bureau, et on a dû leur dire non parce que tous les espaces sont occupés. Là, le lieu dans lequel on est, donc cette salle de réunion, ça pourrait être un bureau, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on garde quand même des espaces ponctuels, même nous, en tant que collectif, pour pouvoir se réunir. On fait des réunions collectives toutes les deux semaines. C'était important d'avoir au moins un espace fixe dans lequel on peut faire nos réunions et se rencontrer, échanger ponctuellement.
Vous êtes nombreux ?
On est 10 dans le collectif. On est 2 personnes salariées. Ensuite, il y a 4 personnes qui sont membres du collège. En fait, on est une association collégiale. Donc, je ne sais pas si
non,
ça te parle.
Bah,
à la différence d'une association, on va dire, classique, où il y a un président ou une présidente, un trésorier, une trésorière, dans une association collégiale, tous les membres partagent les mêmes responsabilités. Donc, toutes les personnes sont co-président, présidente, co-trésorier, okay. Trésorière. Mmh. C'est aussi pour nous une façon d'acter notre envie de travailler en horizontalité, en consensus. Voilà. Donc on est une dizaine de personnes. Il y a aussi des personnes qui sont apprenties. Ça, c'est tout un travail qu'on a fait avec des personnes qui nous ont accompagnées pour réfléchir sur la gouvernance de l'association.
Ouais.
On a eu toute une réflexion sur comment on intègre les nouvelles personnes dans le collectif, comment on ouvre tout en... prenant le temps aussi de connaître les personnes pour voir si ça peut fonctionner ensemble. Donc c'est là qu'on a défini le statut d'apprenti. Et apprenti, c'est des personnes qui ont eu déjà un pied dans la magma, que ce soit en venant dans une commission ou en étant bénévole sur des événements, des chantiers participatifs ou autres, et qui ont envie de découvrir comment ça fonctionne dans le collectif, comment on prend des décisions, et qui viennent en tant qu'apprentis sur 6 mois, voire un an, qui participent aux réunions, qui participent à tout ce qu'on fait dans le collectif, pour après voir si elles ont envie de rentrer dans le collège, de signer en fait les statuts.
D'accord. Donc vous avez un système de statuts qu'il faut signer, une charte, j'imagine, c'est ça ? Un peu ?
Alors, on a les statuts de l'association, dans laquelle on a regroupé aussi... nos valeurs, l'état d'esprit de l'association, comment on fonctionne. Il y a également cette idée, comme je disais, de consensus, de prise de décision horizontale. Après, pour ce qui est de la charte, on va dire, de valeurs, c'est quelque chose qu'on est en train de rédiger.
Il y a eu une demande ou c'est parce que ça semblait nécessaire ?
De quoi ? De rédiger la charte ?
Ouais.
En fait, ça fait 2 ans, avant qu'on ouvre le lieu a ouvert en 2021, donc il y a 1 an et demi. Avant qu'on ouvre, on s'était dit que c'était important de se faire une charte, de mettre sur le papier nos valeurs, ce qu'on a envie de défendre, ce que l'association veut porter. On a réfléchi à tout ça ensemble, on s'était mis d'accord sur quelque chose, un espèce de livret ou de guide, pour définir tout ça, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment entériné la chose, c'est resté un petit peu en suspens. Je pense que c'est aussi important de voir comment ça se passe concrètement.
Oui, il fallait vivre les choses.
Voilà, fallait qu'on vive. Parce que c'est facile de parler d'autogestion et de parler d'ouverture, d'horizontalité, mais dans les faits, parfois, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mmh. On peut parler, on avait mis le mot bienveillance, qui est un beau mot, mais qui parfois, dans la réalité, dans le concret, peut être plus difficile à appliquer. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, en fait. Il faut qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on rédige vraiment quelque chose qui soit en rapport avec ce qui se passe concrètement. Mais pour ça, il faut qu'on trouve le temps. C'est ce qui manque beaucoup. Dans le collectif, on est, donc, je disais, 2 salariés. Et les autres personnes qui sont bénévoles ont un travail à côté. Voilà, ou d'autres activités, il faut prendre le temps, c'est important de se réunir et de discuter de ça ensemble.
Et est-ce que ça vous a semblé vraiment nécessaire de le faire ou pas? Parce que finalement, ça a l'air de fonctionner sans. On pourrait se dire ça aussi.
Oui, ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous posent la question en nous disant « Est-ce que vous avez une charte ?» Je pense que ça pourrait être plus clair aussi pour les personnes extérieures qui ne connaissent pas forcément le lieu. Et puis, même pour nous, c'est toujours intéressant de se reposer des questions, de ne pas rester sur nos acquis et de re-réfléchir à comment on fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que tout le monde se sent bien.
Alors, est-ce que ça marche et est-ce que tout le monde se sent bien?
Alors, après, c'est compliqué de répondre pour tout le monde. Je pense, en tout cas, moi, je peux parler pour moi.
Ouais, et tu dois forcément avoir un retour des autres. Puisque...
Oui, alors après, moi, mon travail, c'est d'être en lien avec les personnes résidentes. Les personnes résidentes ne sont pas forcément dans le collectif. D'ailleurs, la plupart des personnes résidentes ne sont pas dans le collectif. Mais bon, elles font partie de la magma. Et elles sont aussi bénévoles, des fois, sur certains événements ou sur des commissions, de façon plus élargie. Mais là, quand je parle du collectif, c'est vraiment le collectif de gouvernance, en fait. Donc 10 personnes où on prend les décisions par rapport à l'avancement du projet.
Ça, c'est pas forcément ouvert, sauf le statut d'apprenti.
Voilà,
c'est ça.
Okay. Pour l'instant, le collectif, c'est ça. C'est ce qu'on a défini. Grâce à cet accompagnement, ce travail sur la gouvernance, on a réfléchi à ce qu'on voulait. Et on s'est rendu compte que c'était compliqué pour nous d'ouvrir le collectif dans lequel on va prendre des décisions sur le projet à des gens qui, par exemple, n'auraient jamais entendu parler du projet et qui ont juste envie de venir à une réunion et de participer à la prise de décision. On a envie d'un autre fonctionnement. On a envie d'un temps pour apprendre à connaître les gens, voir si ça marche des deux côtés, pour que les personnes puissent aussi appréhender le projet. Parce que c'est pas évident de prendre des décisions quand on connaît pas vraiment le projet, l'historique ou ce qui s'y passe. Donc, pour répondre à ta question, qui est « est-ce que ça se passe bien ?» Je dirais que oui, ça se passe bien. Que les personnes qui sont dans le collectif sont contentes et ont envie d'être là. Et que, comme dans tout projet, je pense, où il y a des êtres humains, il y a des fois des conflits, des fois on n'est pas d'accord. Des fois, on a l'impression d'être un collectif qui fonctionne de façon horizontale et en fait, c'est pas forcément le cas. Voilà, mais
bon,
on essaye.
c'est un truc complexe. Hein, ça.
Ouais, c'est très complexe. Ouais. Après, ça dépend, il y a différentes façons. S'il y a des problèmes interpersonnels, ça peut être les personnes qui règlent ça directement entre elles. Si on voit qu'il y a un problème dans le collectif, on peut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, par exemple, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais l'année dernière, on a des personnes qui sont dans la commission vie associative qui ne sont pas dans le collectif et qui avaient envie de nous accompagner sur des problématiques internes, on va dire, de communication interne, ça peut être de désaccords ou autres, de difficultés dans le collectif. Et ces personnes-là nous avaient fait une espèce de médiation. Elles avaient organisé une journée où, avec un ensemble d'outils ou d'ateliers pour exprimer comment on se sentait dans l'association, dans le collectif, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir un peu plus se livrer. Et c'est que ces temps-là, c'est pareil, c'est aussi, je pense, très important, notamment que ce soit quelqu'un de l'extérieur.
Oui, tout à fait.
Voilà, qui et se alors, positionne comme facilitateur ou facilitatrice.
C'est efficace. C'est des outils intéressants.
Oui, c'est des outils intéressants et c'est efficace. Et c'est vrai que les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, on est encore dans cette énergie et il y a un moment où ça retombe parce qu'en fait, il y a aussi le quotidien. Il y a aussi, oui, en fait, le quotidien qui fait qu'on remet un peu la tête dans le guidon et on sort un peu de ça, et donc il faut y revenir régulièrement. On a une personne là qui a un atelier qui s'appelle Sandra, qui fait de la communication non violente, et elle nous avait proposé un atelier donc avec le collectif qu'on a fait il y a un mois. Là aussi, c'était très riche pour nous d'apprendre à mieux communiquer, à comment on se parle, comment on dit les choses. C'est vrai que ça fait travailler quand même beaucoup de choses, le travail en collectif. Mais c'est ça qui est intéressant en même temps, puisque si c'est une personne qui prend les décisions tout le temps toute seule,
ça
va plus vite. Oui. Mais c'est pas l'état d'esprit qu'on a et c'est pas ce qu'on a envie de mettre en place.
Quoi. Ouais. Ça a été peut-être une démarche même de départ, peut-être, cette horizontalité des décisions, non ?
Quand je suis arrivée, il y avait déjà des réunions collectives, des outils qui étaient mis en place, comme les points météo, je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, chaque personne exprime en début de réunion comment elle se sent. Il y avait déjà ces choses-là qui étaient mises en place, donc je pense que à la base,
oui,
on le fait toujours. On essaye aussi de définir qui va animer la réunion, qui va prendre des notes, qui va être garant ou garante du temps de parole, pour que tout le monde s'écoute, puisse prendre la parole quand il en a envie.
Oui, ça c'est une organisation en fait,
oui,
de base.
Mm. Donc les outils peuvent aider pour ça en fait. Mm.
Et alors quand il y a une sorte de conflit ou de dissension, comment ça se règle alors ? C'est-à-dire sur un projet, quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, comment ça se passe ? Vous votez ou vous votez pas ? Comment vous fonctionnez au niveau des décisions ?
Alors on fonctionne par consensus. Je crois que c'est ça, parce qu'il y a deux types de décisions, il y a par consentement et par consensus. Je ne sais pas si tu sais la différence. En fait, nous, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une personne qui soit fondamentalement pas d'accord. C'est-à-dire que si on prend une décision et que tout le monde est enchanté par la décision et qu'il y a une personne qui n'en a pas envie mais qui ne dit pas un non, ou qui ne met pas un veto, par exemple, et bien la décision est entérinée.
Ok.
Voilà, donc ça arrive qu'on fasse au vote.
Oui.
Mais si vraiment une personne est fondamentalement contre, on va prendre le temps de discuter pour qu'en fait, à la fin, elle accepte, ou alors qu'on essaye de trouver une autre proposition qui convienne à tout le monde. Il y a aussi ça qu'on essaye de mettre en place.
Et ça prend du temps, tout ça ?
Ça peut prendre du temps.
Ouais.
Après, ça arrive quand même souvent qu'on soit sur la même longueur d'onde et que ça aille vite. Mais ça arrive aussi qu'on ne soit pas d'accord et qu'il y ait des débats qui prennent du temps, surtout pendant les réunions collectives où des fois on a beaucoup de sujets à traiter. Donc oui, c'est sûr que ça prend du temps. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi la richesse de travail en collectif. C'est que parfois, ce n'est pas évident. Et parfois, ça nous permet aussi à nous, individuellement, de se remettre en question et de se dire, bon, cette décision, j'étais pas d'accord au début, et puis en discutant avec les autres, je me suis rendu compte que pourquoi pas, et puis après on peut être satisfait en disant bah, en fait c'était la meilleure décision pour le projet. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est l'avancée du projet et que dans la globalité les gens se sentent bien.
Tel un jour. sorti mon vieux rêve de sa boîte comme tu prends un chapeau. Le sommeil est un jardin entouré de doutes. On n'en distingue pas la vérité du mensonge.
Alors,
ça m'amuse assez de savoir ça.
Alors moi, j'ai été recrutée en tant qu'animatrice de la Magma. Et d'ailleurs, c'est toujours l'intitulé de mon poste. Et j'avais vu une offre qui était sur Drôme Ardèche Solidaire, voilà, qui cherchait quelqu'un pour être en lien avec les personnes résidentes, pour organiser des animations dans le lieu. Et je me suis dit que ça avait l'air chouette, donc j'ai postulé. Et je suis venue à Nonnet les rencontrer, et voilà, ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça. Mm. Ouais. Donc tu savais pas à la base ce que c'était ou...
Non, et à la base je savais pas ce que c'était un tiers-lieu. Bon, maintenant c'est un concept qui est assez à la mode,
oui,
finalement.
Oui, de plus en plus.
Oui, je pense que dans le cadre de ce projet, ce qui s'est passé, c'est que les personnes se sont dit qu'est-ce qu'on fait de ce lieu, qu'est-ce qu'on a envie de faire, on a envie de faire ça, ça, ça dans un même espace. Et après, ils et elles se sont rendus compte que ça s'appelait un tiers-lieu.
Oui, mais... après, peu importe, il y a des gens qui refusent aussi cette étiquette.
Oui,
hein, c'est pas...
oui bien sûr.
Parce qu'il y a des tiers-lieux maintenant, il y en a beaucoup. En fait, c'est que des coworking et
oui.
Voilà, des ateliers numériques.
Oui, des Fab Labs, il y a
oui,
plein
voilà,
de choses.
Enfin, bon, voilà.
Oui, voilà, après, ça veut dire plein de choses.
Justement, ça m'interpelle, ça. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une envie de faire de la résidence habitable?
Alors, non.
Non.
Pas dans le lieu. Non, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour.
Pas du tout.
Non.
Pourquoi?
Et je pense pas que.
Vous en avez déjà parlé ou ça s'est même pas entendu ou...
En fait, on en a déjà parlé pour se dire que c'était pas un projet qui pourrait être possible parce qu'il y a énormément de normes. Là, par exemple, nous, on n'est même pas norme établissement recevant du public. Si on veut faire un café associatif, par exemple, il faut qu'on soit norme ERP, donc établissement recevant du public, ERP. Déjà, de mettre ça en place, c'est quand même pas mal de travaux, c'est pas mal d'investissements. Et de faire de l'habitat, ça n'a jamais été une volonté du projet, en fait. Donc, de faire des appartements. Là, c'est un peu trop tard, puisque tous les espaces sont... Enfin, et après, bon, il reste encore beaucoup d'espaces, et il reste le rez-de-chaussée. Mais le rez-de-chaussée, dans l'idée, il y a déjà un peu des volontés sur ce qui va être fait au rez-de-chaussée. Mais en fait, voilà, c'est une question de normes, quoi. C'est que et puis oui, puis ça demanderait aussi énormément de travaux. Là, par exemple, au deuxième étage, il n'y a pas de point d'eau, donc ça voudrait dire de mettre ça en place. Oui, il y a du chauffage dans les bureaux et les ateliers, pas dans les couloirs, par contre. Oui, ça, sinon ce serait trop compliqué à chauffer. Mais les bureaux et les ateliers et les espaces ponctuels sont chauffés.
Ah, mais c'est le fait aussi que vous n'ayez pas acheté, vous êtes en location, donc vous pouvez pas du coup. De l'habitat.
Oui, que... oui, et puis en fait, je pense que ça, c'était pas une volonté du
non.
collectif.
Oui, ça n'a pas effleuré en fait.
Non. D'accord. Peut-être parce que le lieu, je sais pas, peut-être que le lieu s'y prêtait pas vraiment ou qu'il n'y avait pas cette envie-là. Enfin, c'est pas quelque chose dont on discute. Mm-hmm. Alors peut-être qu'un jour on se dira en fait, ce serait super de faire de l'habitat ici, mais pour l'instant, c'est pas dans nos projets, non. Mm-hmm.
Et donc, en fait, c'est juste, donc, si j'ai bien compris, résidence d'artisans, de créateurs, d'artistes même, on pourrait dire, c'est ça?
Oui.
Et puis, ouais. Des lieux où il y a des rencontres, favoriser la rencontre à tous les niveaux, quoi.
Oui, alors, on accueille aussi des résidences. C'est surtout parce qu'il y a plusieurs artistes qui nous ont contactés, qui cherchaient des lieux pour faire des résidences. Là, par exemple, dans une semaine, on va accueillir des personnes qui font du clown, on a accueilli des personnes qui faisaient du théâtre, de la danse, de la musique expérimentale. On a quand même accueilli plusieurs résidences depuis qu'on a ouvert.
Résidence, c'est-à-dire qu'ils viennent, par exemple, une semaine?
Oui, c'est ça.
Mais ils couchent sur place ou...
Alors, non, du coup, ils ne peuvent pas coucher.
Coup, ils peuvent pas.
Voilà, ils ne peuvent pas dormir là. Mais soit on a trouvé des solutions pour les accueillir avec le réseau ou les gens du collectif, les gens bénévoles. Soit ils connaissaient déjà d'autres personnes sur place et ils ont pu loger chez elles.
Donc, en fait, vous aurez le local juste voilà, pour leur pratique. En fait.
Oui.
Ouais.
C'est ça.
Ok.
Et à côté de ça, on organise aussi des événements assez régulièrement. Bah là, par exemple, cet été, on avait fait des guinguettes. Donc, on en a fait une en août et une en septembre. Et on a fait aussi une grosse soirée de soutien pour soutien à l'événement. Et la guinguette, l'idée... Alors, on a fait ça juste en face de la Magma. Donc là, sur un parking bordé de platanes. L'idée, c'était d'amener un peu de dynamisme dans la ville. Ouais. Mettre de la musique. On avait fait une cantine à prix libre. Voilà, musique, cantine, un bar. Donc c'était chouette, il y avait pas mal de monde et c'est la première année qu'on faisait ça. Les années d'avant, bon, ça a été compliqué aussi à cause du Covid. Les années avant que j'arrive, il y avait eu surtout des soirées de soutien. L'idée, c'était de récolter un peu d'argent aussi pour soutenir le projet. Et là, les guinguettes, c'était encore une autre dynamique. Donc l'année prochaine, je pense qu'on en refera. Je ne sais pas si on en refera deux parce que là, c'était très intense, mais en même temps, c'était super. Donc on va voir l'année prochaine comment on met en place ça. Et puis aussi, il y a régulièrement des choses qui se passent dans le lieu. C'est pas forcément nous, c'est pas forcément le collectif qui l'organise. Ça peut être des soirées tango, c'est des gens extérieurs qui viennent proposer quelque chose.
Là, vous avez des grandes salles?
On a la grande salle, la salle sur demande, celle dont je parlais tout à l'heure, où il y avait les cours de yoga, les cours de théâtre d'impro, et où il y a régulièrement des choses qui s'y passent. Il peut y avoir des concerts, on a déjà accueilli des concerts, il y a eu une soirée féministe, des pièces de théâtre, des associations qui viennent faire leur assemblée générale, par exemple en soirée, qui finissent après sur un petit pot convivial. Voilà.
Et alors l'entourage, le voisinage, ça se passe comment? Il n'y a pas de souci particulier?
Il n'y a pas de souci particulier. Il y a aussi des personnes qui habitent autour, qui ont pu découvrir le lieu, je pense, lors de la fête de la Magma, parce qu'on l'avait fait à l'intérieur du bâtiment. Donc il y a des gens
ça,
qui...
Ça, c'était il y a 15 jours, non?
Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'était le 1er octobre. Donc à cette occasion, tu sais qu'il y a des personnes qui sont venues en nous disant bah, « Nous, on habite à côté, et puis on n'avait jamais pu voir le lieu, et qui étaient assez intéressées. » Ça se passe bien, il y a juste eu une fois, je crois que c'était une soirée où il y a eu un peu trop de musique et où du coup on a reçu la police pour tapage nocturne, mais c'est arrivé vraiment une fois.
Donc il y a quand même une certaine bienveillance par rapport au projet?
Oui, en fait, après il y a de plus en plus de personnes qui entendent parler de la Magma, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Il y en a qui sont assez intéressés, qui découvrent, qui ont même envie de s'impliquer en tant que bénévole. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un projet qui est assez bien reçu. Ben, en fait, c'est aussi un endroit où on a envie de créer des choses, de faire du lien, d'organiser des événements. Donc je vois pas pourquoi ça serait... Ça pourrait être mal reçu, mais...
Ah, c'est le monde des humains, hein, c'est compliqué parfois. Donc en fait, oui, vous n'êtes pas sur Annonay. Annonay, c'est une petite ville, on va dire.
Oui, alors Annonay, c'est une ville de plus de 10 000 habitants, je ne sais pas si c'est 16 000 habitants. Ouais. Plus de 10 000 habitants, c'est la plus grande ville d'Ardèche, en Nord-Ardèche, sachant que l'Ardèche est très...
Ouais, c'est très étendu.
Étendu, voilà. Entre le nord et le sud, on est quand même à 2h30 de route. C'est une ville...
Et donc quand même à l'intérieur d'Annonay, vous êtes connue maintenant?
Ben, on commence à l'être de plus en plus.
D'accord.
Surtout depuis qu'on a organisé les guinguettes, qu'on a fait la fête de la Magma, que les bureaux et les ateliers sont presque remplis. Ça permet aussi d'avoir un rayonnement, en fait. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur place, donc qui en parlent, et ça se fait connaître comme ça. Et aussi avec les événements qu'on organise, parce qu'il y a des personnes qui viennent, par exemple, aux soirées tango. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aux soirées tango, qui ne connaissaient pas du tout le lieu. Il n'y a pas que des soirées tango, il y a plein de soirées différentes. Oui. C'est le cas pour...
C'est un exemple.
Oui.
Ouais. Parce que le but, c'est aussi... Est-ce que c'est aussi le but? C'est de redynamiser aussi un centre-ville ou recréer du lien justement entre les habitants?
Oui. Oui, clairement, ça, c'est un des buts de l'association. Bah, d'ailleurs, c'est écrit dans nos statuts. C'est formulé d'une façon... un peu économie sociale et solidaire, c'est bien formulé, je ne saurais pas le répéter là, mais c'est inscrit dans nos statuts, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer. Et en fait, dans les personnes qui font partie du collectif et qui étaient là au tout début du projet viennent pour la plupart d'Annonay. Donc elles ont grandi là, ou alors elles sont arrivées ici au collège, Il y a quand même un lien fort avec cette ville et l'envie de, ouais, de créer un lieu qui bouge, quoi. Mmh. Un lieu dynamique.
Vivant.
Oui.
C'est ça.
Ouais.
Ouais. Et ça marche ?
Enfin, c'est vrai ben, que j'espère que ça marche.
C'est vrai que c'est un peu court peut-être aussi.
Oui.
Mais on peut dire que ça marche puisque tous les ateliers sont pris déjà.
Oui, déjà les ateliers sont pris. Les personnes qui travaillent ici se sentent bien, je pense, puisque personne n'est parti encore. Et c'est chouette, il y a une bonne ambiance, on fait des choses ensemble, on fait des réunions des résidents, des résidentes, on fait des barbecues, des crêpes, voilà.
Des choses tout ensemble, quoi.
Voilà, donc ça se passe bien, et après, je pense, enfin, j'espère que ça marche, mais il y a toujours plein de possibilités, il y a toujours plein de nouvelles choses à faire, donc on verra aussi dans les prochaines années.
Et les travaux continuent ou pas ?
Alors, les travaux continuent, on a refait des chantiers participatifs cet été pour nettoyer un petit peu le rez-de-chaussée. C'est là où il y aura le garage participatif. Et
c'est
peut-être
génial,
le café associatif.
Oui. Le garage.
Alors, le garage participatif, c'est un projet qui est porté par une personne qui s'appelle Antonin. Donc, Antonin qui est mécanicien et qui a ce projet-là depuis quand même quelques années. Et qui veut investir un espace de la Magma pour créer un garage participatif. Donc, c'est porté par Antonin et c'est aussi en accompagnement avec une personne du collectif, donc Lucille et Réna qui font partie du collectif et qui accompagnent ce projet-là. En fait, il y a eu de la mécanique générale dans cette usine, je crois que c'était en 2016. Donc il y a un espace avec des grandes portes, un espace garage quoi, où il peut y avoir des voitures, des motos. Et l'idée de ce projet, c'est de faire un garage participatif, c'est-à-dire un lieu dans lequel les personnes vont pouvoir soit faire réparer leur voiture, soit réparer elles-mêmes leur voiture, soit se faire accompagner, un mix des deux en fait.
Ouais, génial.
Et donc participatif et aussi solidaire. L'idée c'est que voilà, les prix vont être accessibles. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont été pensées par Antonin et Lucille et les autres personnes qui travaillent sur ce projet. Mmh. On a eu une présentation il y a un mois de l'avancée du projet, où ça en est, et ça avance plutôt bien d'ailleurs.
Ouais.
Après, il faudra faire aussi des chantiers pour réhabiliter cet espace et pour voilà, que ce soit
ouais,
plus aux normes et que ça puisse.
Des choses comme
oui.
Ça.
Oui, après, il y a aussi de l'investissement, mais ouais. Ouais, tout ça, ça a été pensé avec la personne qui porte le projet, et donc la Magma va louer cet espace à Antonin, du coup. Et donc son garage, ça s'appelle l'Arsouille Garage.
C'est
voilà. Ils ont une page Facebook.
Ah oui ?
Ouais, l'Arsouille Garage. Si vous avez envie d'avoir
ouais.
plus d'infos
ouais.
Oh,
ouais.
sur Facebook.
Bah oui, parce que je ne connaissais pas. Mm. Mais je trouve que c'est une super idée.
Oui.
Ouais, c'est génial.
Ouais, c'est vrai que c'est une super idée. Puis aussi pour les personnes qui ont envie peut-être d'apprendre comment ça fonctionne,
ouais,
qui ont envie
ça.
De faire, qui n'ont pas forcément les outils, les moyens d'être
ouais.
accompagnées. Puis voilà, il y a différentes formules en fonction des besoins et des envies aussi.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est un super projet. Et je ne sais pas quand il verra le jour, mais en tout cas, ce qu'ils nous ont dit pendant la présentation, il y a un mois, c'était que d'ici 2023, il y aurait sûrement des premiers travaux qui vont être faits. Et peut-être que le lieu verra le jour dans, voilà, dans pas très longtemps. Après, c'est compliqué de
c'est
donner
bien.
Une date
oui,
exacte. Et
ouais.
Parce qu'on ne sait jamais.
Mais ça va, oui, bien sûr.
Voilà.
Mais bon, ça,
ouais.
ça sent assez proche, quoi.
Oui.
C'est pas genre dans 3 ans, quoi.
Oui, voilà.
Ouais.
Je pense que ça sera avant.
Mmh. D'accord. Ouais, ça
j'espère.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours comme ça, un peu innovants
pour Alors, il y a aussi des personnes qui se sont rencontrées, enfin, en lien avec d'autres lieux sur Annonay, notamment la Corderie, il y avait, je crois, les Compagnons Bâtisseurs, une association. C'était des discussions autour d'un atelier de bricolage.
D'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est en réflexion. Est-ce qu'il y aura un atelier de bricolage à la Magma ? Est-ce que ce sera ailleurs ?
Mmh.
Est-ce qu'il y a des besoins ? Mmh. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. En fait, l'idée, c'est vraiment de réhabiliter tous ces espaces qu'on a pour faire des lieux où on peut créer du lien, où on peut s'entraider, où on peut créer des choses.
Ouais.
Donc, voilà, il y a des réflexions et on verra par la suite comment ça évolue.
Et toi, tu ne m'avais pas dit que tu allais à une réunion des tiers-lieux
Oui.
Alors ?
Alors, je suis allée lundi, mardi, mercredi à Metz. C'était un événement qui était organisé par France Tiers-Lieux. Donc, c'était la première rencontre nationale des tiers-lieux. Et c'était très intéressant. Je crois qu'il y a eu plus de 800 personnes sur les trois jours, de lieux assez variés. Alors, j'ai retrouvé beaucoup de nos copains, copines d'Ardèche.
Ouais.
Parce que nous, on est dans un réseau de tiers-lieux ardéchois qui s'appelle la Tram 07.
Ok.
Qui est un réseau qui met en lien les tiers-lieux, les différents tiers-lieux en Ardèche. Donc on organise, enfin on se rencontre régulièrement pour faire par exemple des ateliers de co-développement, je sais pas si ça te parle. C'est des ateliers où on réfléchit ensemble à une problématique. Comme on est des lieux qui avons parfois des problématiques similaires, c'est aussi très intéressant parce qu'on peut échanger.
Partager, voilà. Et trouver des solutions.
Mmh. On a eu aussi il y a deux mois un atelier sur les outils d'intelligence collective. Voilà. Okay. Donc il y a une personne, un intervenant qui est venu nous parler de ça. On a testé des outils d'intelligence collective pour faire ensemble, pour réfléchir ensemble.
Ouais, ça va être intéressant ça.
Ouais, c'était vraiment très intéressant. Et puis il y a eu quelque chose qui a été organisé, ça c'est pas en lien avec la Tram 07, c'est encore autre chose, mais il y a été des rencontres de tiers-lieux à but non lucratif. Ça c'était l'année dernière et ça a eu lieu au Moulinage de Cirol. Justement, voilà, c'était organisé par Relier. Voilà, donc on a quand même l'occasion de se rencontrer finalement entre tiers-lieux, enfin, entre personnes qui travaillent dans des lieux un peu pluridisciplinaires. Et c'est vrai, voilà, on peut échanger sur des problématiques, sur des idées ou des projets qu'on peut avoir en commun, donc c'est hyper intéressant, c'est toujours enrichissant.
Bien sûr.
De parler aussi avec des personnes qui ont vécu la même chose, même si en soi tout. On va dire tous les lieux sont différents.
Ouais,
et...
Enfin, moi, j'en ai fait plusieurs, c'est différent au final.
Oui. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des problématiques communes. C'est toujours intéressant d'échanger, tout en gardant en tête que chaque lieu est unique, chaque projet est unique et chaque expérience est unique. Mais ça permet aussi de, quand même de s'enrichir les uns les autres et d'apprendre les uns des autres.
Oui, puis d'un point de vue personnel, hein, ça fait avancer finalement.
Oui, c'est sûr.
Ok, ben merci beaucoup Lucie de ce partage.
Et ben avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Apocalypse.
Oh. Allez, on se retrouve le mois prochain.
Tétaclac.